Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale. Voici le bilan de fin de saison de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Vous allez pouvoir entendre en intégrale les 40-quelques minutes de cette conférence de presse avec Rémi Garde et les membres des médias montréalais. Voici l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde.
Rémi, en réécoutant un peu la conférence de l'année passée avec Arrivée, on sentait beaucoup de bonnes intentions. Vous avez discuté avec Patrick Vieira certaines choses de la MLS. Quelles ont peut-être été vos surprises et les choses que vous aviez peut-être sous-estimées dans votre aventure, votre première année avec l'Impact?
J'ai certainement eu beaucoup de surprises, mais pas parce que c'était la MLS. Des surprises parce que c'était un environnement nouveau, des joueurs nouveaux. Et pour ressortir une surprise particulière, c'est difficile pour moi. Simplement, dans votre question, vous avez mentionné aussi peut-être la question qui revient souvent à ce propos-là, de sous-estimer de ma part peut-être la MLS. Je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de laisser passer cette idée, en tout cas qu'elle continue de flotter dans l'air, parce que je ne vois pas en quoi... quels actes on peut mettre derrière cette idée. Donc voilà, je tiens à tordre le cou en tout cas à ça. Ça ne correspond pas du tout à mon caractère. En plus, je ne suis pas quelqu'un, je pense, qui a l'habitude de prendre les choses à la légère et de sous-estimer justement. Ce serait plutôt l'inverse. Voilà. Donc non, c'est juste ce que je voulais dire aussi.
Rémi, bonjour. Quel est le plus grand chantier pour vous là, au cours des prochains mois, en vue de la prochaine saison? On sait que de l'hiver dernier, vous n'avez pas nécessairement été en mesure de faire votre recrutement à vous. Maintenant, vous avez les cartes en main, vous connaissez votre équipe, vous connaissez la Ligue. Quel est le plus grand chantier, à votre avis, pour vous?
Je ne suis pas sûr qu'il soit plus gros que l'année dernière, déjà. Et puis, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu les cartes en main pour faire... le recrutement l'année dernière, ça voudrait dire que qu'on a fait pour moi, ou je peux pas laisser passer non plus cette idée si c'est ce que vous pensez. Simplement, j'ai un peu plus de connaissances du club, de la ligue et ainsi de suite. Mais je crois que encore une fois, le chantier est moins important que l'année précédente, où effectivement. Avant même que j'arrive, il y avait déjà pratiquement 30% de l'effectif qui partait, qui était en fin de contrat ou en fin de carrière, ou qui est venu me voir pour me dire qu'il fallait absolument laisser partir telle ou telle personne, enfin tel ou tel joueur est venu me voir pour me dire qu'il fallait partir. Donc ça représentait une bonne dizaine de joueurs. Aujourd'hui, je dirais qu'on en a payer le prix en début de saison, mais aujourd'hui le chantier est moins important. Il est moins important en quantité. Il est très important en qualité, mais différent.
Rémi, pour ce qui est des joueurs que vous avez fait venir d'Europe, la majorité d'entre eux semblent vraiment avoir aimé leur expérience ici. Ils ont eu des bons mots. Je pense à Rod Fanny, même Rudy. Tous les autres, Sagna. À quel point pour vous, vous avez été capable d'amener certains joueurs d'un certain âge, parce qu'il n'y en avait pas vraiment d'autres ici, mais ces gars-là, selon vous, vont-ils vous aider à partir de l'année prochaine à convaincre d'autres joueurs de venir et possiblement des joueurs aussi plus jeunes?
Je l'espère. Et puis je suis content d'avoir, satisfait en tout cas, et un peu soulagé aussi, pour tout vous dire, d'avoir fait venir des gens qui ont aimé leur expérience, qui ont donné, qui aiment la ville, qui aiment l'atmosphère, et je me rajoute dedans, voilà, sans faire de plus. Donc ça, c'est important aussi. Bien sûr, on l'a vu, que le bouche à oreille entre les joueurs, c'est des arguments importants, ce sont des arguments importants, on l'a vu pour Bakary, le dernier arrivé. Voilà, donc oui, j'espère qu'ils vont faire la promotion de l'Impact si j'en ai besoin.
À la fin de la saison dernière, de l'année dernière, en fait, la saison était terminée. Laurent Simon a été échangé à LA. Une des raisons principales qui a été évoquée, c'était pour rajeunir l'équipe. Bon, là, vous avez été pris avec le début de saison, obligé d'aller chercher des solutions différentes. Maintenant que Rod et Bakary, eux, aimeraient revenir, votre position par rapport à l'âge de la défense est où?
Écoutez, c'était effectivement, vous avez raison, un axe qui m'avait été donné de rajeunir l'effectif. Vous vous souvenez aussi que en début de saison, les longues blessures que j'ai apprises pour Kyle Fischer, ce qui n'était pas dans les petits papiers quand je suis arrivé tout de suite, puis celle de Zach, m'a placé dans une situation d'urgence, surtout celle de Zach qui est arrivée très tard. Donc on a effectivement, j'ai pas forcément tenu la feuille de route que j'ai annoncée pour une des raisons effectivement du départ de Laurent Simon, comme vous l'évoquez. Voilà, j'ai pas grand chose à répondre.
Mais pour la suite, ça vous place où? Parce que là, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on poursuit avec ces gars-là lorsqu'ils auront un an de plus, ou est-ce qu'au contraire, on tourne la page?
Oui, alors après, il y a âge et âge, et il y a surtout ce que moi j'ai vu à l'entraînement d'eux, et puis la production qu'ils ont fait pendant les matchs. Et là, effectivement, pour répondre plus précisément à votre question sur ces deux gars-là, comme vous dites, que ce soit Rod et Bac, je souhaite qu'ils soient avec nous très fortement pour la saison prochaine. Je m'en suis ouvert avec eux, on en a discuté. Voilà, comme ça a été dit, ils sont satisfaits de leur expérience ici, ils ont envie d'apporter plus. Et surtout, je vois, moi, au quotidien, que ce sont des joueurs qui ont encore quelques... Ils en ont encore un peu sous la semelle. Et ça, c'est important. Après, parfois, à 31 ans, à 32 ans... Vous pouvez avoir tout donné pour différentes raisons, pour des raisons de blessure, pour des raisons d'hygiène de vie que vous n'avez pas. Voilà. Et dans le cas de Rod et de Bakary, je dois dire que le fameux entraînement invisible, c'est-à-dire celui qui est autre que les 1h30 de séance sur le terrain, plus l'âge passe et plus c'est important, et ce sont de vrais professionnels.
Rémi, après un an à observer comment le club fonctionne et tout ça, pour en revenir justement sur le thème du rajeunissement de l'effectif, dans quelle mesure est-ce que la structure de formation, est-ce que le fonctionnement de l'académie puis l'association avec le Fury d'Ottawa peut vous aider à continuer cette mission-là de rajeunir l'effectif?
On m'a posé la question plusieurs fois cette année, j'ai parlé de ça. Il est certain qu'une académie pour un club est quelque chose de plus important. Ça peut être une vraie identité. Maintenant, c'est vrai que de ma position, le fait que dans cette organisation, il n'y ait pas d'équipe réserve n'est pas la solution la plus pratique pour moi, notamment pour finir de développer les jeunes. Parce que quand ils s'arrêtent de leur championnat en U19, la solution, c'est effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, celle qui est mise en place par l'organisation, c'est le partenariat avec Ottawa. Donc moi, je l'ai découvert, c'est la première année. Ottawa, c'est pas très loin, mais c'est pas non plus la porte à côté. Et puis surtout, Ottawa a un championnat à disputer. L'entraîneur a certainement des obligations. Je pense pas qu'il est là-bas simplement pour finir le développement des jeunes de l'Impact. Donc, c'est pas la situation idéale. Maintenant, moi, je respecte. Je viens m'insérer dans une organisation et. Je m'excuserai aujourd'hui de ne pas porter un jugement là-dessus, mais simplement de le constater. Et voilà, je fais en fonction. J'ai essayé d'intégrer des jeunes joueurs à l'entraînement tout au long de l'année. Il y en a d'autres comme Clément Baya, Daniel Kinoumbé, Thomas Meyer-Giguère, Maxime Crépeau, c'est un petit peu différent, il y a un peu de bouteilles. Mais ces jeunes-là ont été envoyés là-bas. Bon, je vois qu'il y en a qui ont joué un tout petit peu, il y en a qui n'ont pas beaucoup joué. J'ai envie de dire que c'est terrible à cet âge-là de pas pouvoir jouer régulièrement parce que j'ai envie de dire presque quel que soit le niveau, le match régulier de toutes les semaines quand on a 19, 20 ans, il est important parce que ça structure tout un tas de choses. Donc voilà, moi je fais en fonction de ça, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un maximum de jeunes à l'entraînement avec moi, tout en sachant aussi que je ne suis pas quelqu'un qui aime entraîner 30 joueurs à la fois, mais quand j'en ai déjà 20 joueurs de chance, c'est déjà pas mal.
Est-ce que cette discussion-là, excuse-moi Pat, juste sur le même sujet, est-ce que vous avez eu cette discussion-là avec Joey? Parce que
oui.
Puis ça ressemblait à quoi comme discussion?
Ça n'a pas à être dévoilé ici, vous m'excuserez, mais évidemment que j'en ai parlé.
Pour poursuivre un petit peu dans cet angle-là, sans nécessairement dévoiler vos discussions avec le président ou d'émettre une opinion claire sur le sujet, quand Joey Saputo vous a engagé, il a mentionné que l'une de vos caractéristiques principales, c'était justement le développement de jeunes joueurs. Il n'y a pas une contradiction, justement, à aller chercher un coach pour une de ces raisons-là, en n'ayant pas d'équipe réserve, cette étape charnière là, dans le développement d'un footballeur?
Je ne suis pas sûr que c'est pas moi qui dois répondre à cette question. Et moi, je vous le dis, je suis... Je l'ai dit tout à l'heure, je suis très bien à Montréal, je suis très bien à l'Impact. Je pense qu'il y a des choses à faire et je l'ai fait. Je mène ma mission avec effectivement le passé que j'ai, l'envie de et la passion et le bonheur de pouvoir accompagner des jeunes dans leur développement. Mais je fais avec les outils qu'on me donne. Voilà. Et je le dis, c'était pas... C'est pas idéal, mais il y a quand même moyen de travailler. Et j'ai bon espoir que, en dépit de ça, de ce que je viens de dire, il y a des jeunes qui me laissent de l'espoir dans ce que j'ai vu, dans leur envie de réussir, dans leur comportement, dans leur mentalité de travail. On n'a pas encore tout à fait réussi cette année, mais j'ai bon espoir.
Hier, dans son bilan, Ignacio Piatti a dit souhaiter que le noyau de joueurs soit pour l'essentiel ramené. Et il a ajouté, on est peut-être à un ou deux joueurs de pouvoir aller plus loin avec cette équipe-là. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui.
Vous êtes encore?
Non, je vis avec ce groupe, je vois évidemment, j'ai une vision très claire de ce qui s'est passé toute la saison et je vois bien que le groupe de la première partie de saison et le groupe de la seconde partie de saison, qui est, ma foi, pas si différent l'un de l'autre, mais quand même, je vois bien que sur la deuxième partie de saison, les joueurs ont pris beaucoup, beaucoup de plaisir à être ensemble. Évidemment à jouer ensemble, mais à être ensemble. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, bien sûr que de l'extérieur, les joueurs sont que des joueurs de foot qui doivent produire un résultat sur 90 minutes chaque semaine, mais pour aboutir à ce résultat, il y a tout un tas de situations qui se passent ensemble, on est des hommes, et quand la relation elle est bonne, chacun augmente son rendement individuellement de 30 ou 40%. Donc je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu et ressenti, des joueurs qui étaient contents de venir à l'entraînement, qui travaillaient fort, qui étaient exigeants entre eux, même s'ils ne le sont pas encore assez, mais être exigeants entre eux aussi, je vois bien que ça fonctionne. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un chantier, mais il est plus qualitatif que quantitatif, donc je suis d'accord.
Bonjour, la saison est finie, vous avez des joueurs qui jouent en sélection, par exemple Safir Taïdar qui a un match dans deux semaines avec la sélection de l'Algérie. Est-ce que vous avez fourni un travail spécial pour ces joueurs?
Oui, tout à fait. Non seulement pour ceux qui partent en sélection, mais on ne les a pas laissés partir sans rien du tout. Ils ont un programme sous forme de nouvelles technologies maintenant, pour qu'on s'adapte au temps avec lequel on vit. Ils ont tous rencontré Robert Duverne, notamment après m'avoir rencontré, pour mettre ça en place et individualiser le travail. Encore une fois, non seulement pour ceux qui doivent se maintenir en forme pour les matchs internationaux, mais aussi pour les autres qui doivent se maintenir en forme et se préparer au camp de pré-saison à partir du mois de janvier.
Un des chantiers que vous parliez est la profondeur de l'Impact. Comment on adresse cette profondeur durant l'entre-saison pour améliorer un peu le banc aussi?
Je crois que le groupe dont on parle, là, y a des joueurs qui m'ont montré cette année que ça pouvait être des joueurs importants. Alors, j'aime pas parler de profondeur. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir un groupe de joueurs, une vingtaine de joueurs, avec différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des jeunes, des, voilà, des titulaires indiscutables pendant un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus indiscutable si on n'est pas bon, mais voilà, d'avoir un groupe cohérent, homogène. Et encore une fois, ben, le fait d'avoir bataillé cette année au début, de les connaître les uns les autres, aujourd'hui, j'ai une vision plus claire et je pars d'une feuille qui est un peu moins blanche pour construire ce groupe, et j'espère arriver à mes fins d'avoir, d'avoir ce groupe avec, comme vous dites, des joueurs qui viennent challenger un peu plus peut-être ceux qui jouent.
Oui. Rémi, hier, pendant le bilan des joueurs, Anthony Jackson-Hamel a clairement laissé entendre qu'il y avait un fossé entre vous deux. Évidemment, la question de l'attitude revient toujours sur le plancher. Qu'est-ce que vous attendiez de lui que vous n'avez pas vu et quelle est son attitude selon vous?
Ce que j'attendais de lui, ce que j'ai pas vu, c'est peut-être déjà quand on a commencé la saison. On est parti en préparation et bon, moi j'avais une idée de la préparation que je voulais mener puisque c'était pas la première que je menais et assez vite j'ai dû m'adapter au groupe que j'avais en face de moi. Et Anto faisait partie de ces joueurs qui ont souffert beaucoup malgré le fait que j'avais diminué un peu les standards dont j'avais l'habitude d'utiliser en Europe. Voilà, donc il s'est blessé pendant la préparation, il s'est blessé une deuxième fois, donc le départ a été un petit peu difficile. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas arrivé ici en me disant tiens, je vais me payer la tête de celui-là. Moi j'étais en attente de qu'est-ce qu'il a pas, comment vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il a pas donné par rapport à, j'en ai déjà parlé, je pense que voilà, Anto c'est peut-être quelqu'un qui avant de donner à l'équipe veut recevoir, voilà, si je schématise un peu et c'est pas méchant ce que je dis, voilà, et moi j'étais dans l'attente de quelqu'un qui porte un peu l'équipe plutôt que se faire porter par l'équipe. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai essayé tout au long de la saison, sans doute avec maladresse, et en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on constate, c'est avec pas de succès. J'ai essayé assez longtemps de lui donner sa chance, de lui faire comprendre aussi que ok, moi je veux bien m'adapter, d'ailleurs c'est pas valable que pour lui, hein. J'ai bien voulu m'adapter, je l'ai dit en début de saison, au fait que je voyais bien que le stage de pré-saison était difficile, donc je me suis adapté, mais je veux dire, je suis venu aussi avec une... si on est venu me chercher, c'est pas pour faire ce que les joueurs voulaient faire, j'ai pas du tout compris ça dans la feuille de route qu'on m'a donnée, et je pense avoir très bien compris, donc voilà. J'ai essayé d'être intelligent avec le plus possible. Ah, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire aussi ici que j'ai rien contre les joueurs québécois, parce que je lis parfois des choses où j'entends, ou peut-être que j'entends mal, remarquez, c'est possible, hein, mais voilà. Non, on peut me reprocher des choses, et sur le cas d'Anto, je suis déçu, encore une fois, je suis pas venu en me disant, tiens, celui-là, je vais me le payer, quoi. Voilà, j'ai toute la saison, j'ai essayé les trois avant-centres là, que j'avais, j'ai même essayé Nacho pour me dire peut-être que, tiens, c'est la solution, les adversaires ne feront pas courir l'autre côté, là, surtout le côté où il y a Saphir qui a dû m'attaquer aussi, donc je vais essayer là, Voilà, bon, il n'y en a aucun des trois, malheureusement, tout le monde l'a vu, donc qui a réellement performé. Voilà, bah, c'est aussi mon échec.
S'il y a fossé entre vous deux, est-ce qu'il y a encore possibilité de construire un pont ou...
Il y a surtout, je l'ai dit à Anthony, il y a surtout un contrat entre lui et le club. Et moi, je n'ai rien contre lui personnellement. J'ai eu, je pense, un seul problème cette année avec un joueur en groupe, manque de respect, mais pas avec Anthony. Donc, je n'ai rien contre lui et voilà, on va trouver la meilleure solution intelligemment. Et si la solution est qu'il revienne l'an prochain et qu'il casse la baraque, je n'ai pas d'amour propre à me dire que. Voilà. Maintenant, on a discuté. Il y a aussi des choses qui restent entre nous. On verra ce qui se passera.
Est-ce que l'attaquant, c'est votre priorité dans le prochain mercato? Et si oui, quel genre d'attaquant vous voulez voir atterrir à Montréal?
Oui, c'est ma priorité. Si ce n'était pas ma priorité, il faudrait que je me remette sérieusement en question et je ne serais peut-être pas là à vous parler. Donc, oui. Quel genre d'attaquant? Attaquant efficace, un attaquant qui travaille aussi pour l'équipe, mais parce que je vois pas pourquoi un avant-centre travaillerait moins que les autres. Voilà, j'ai eu des avant-centres dans mes équipes précédentes qui pouvaient aussi un peu rechigner au départ, et puis voilà, qui finalement, avec un travail collectif, de vidéo, de réglage, de voyaient qu'en faisant ci, en faisant ça, on pouvait aussi marquer des buts. Donc moi j'ai toujours eu, que ce soit Gomis, Lisandro Lopez, Lacazette, ils ont toujours marqué des buts dans mes équipes. Donc je veux trouver quelqu'un comme ça qui soit efficace.
Coach, famously, or infamously, I guess a couple of years ago, Didier Drogba at the end of his season said to us, anything can happen in the world of soccer. We've already seen a report from the Equipe speculating that you might be looked at by a team in France for another job. Can you confirm to us that you will be back with the team next season and your future is here?
From my side and my willing, yes, I will be back.
Can I also ask about the goaltending situation? Evan Bush heading into a contract negotiation. You have Clément Diop and you also have Maxime Crépeau, who had a very good year in the USL. How do you see that position heading forward?
My priority for Impact next season to be the goalkeeper number one is Evan Bush, clearly. It's the same position for looking for a new striker. It would be stupid to say I don't want any more Evan Bush. Then we started negotiating with his agent. Not me, but the organization, and hopefully we will succeed to sign him on a new contract and starting with him next season. I met Maxime Crépeau after the season, and he informed me that he enjoyed a lot the season with Ottawa, and he wanted to keep going playing as a number one. Then. This is the situation.
Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, mis à part Carl Fischer, qui ont été informés hier qu'ils ne seraient pas de retour la saison prochaine?
Oui. Oui.
Pourriez-nous les identifier?
Oui.
Merci.
j'ai indiqué à Michael Salazar que l'aventure se terminait pour lui ici. Je lui ai indiqué à Louis Bellangoyette. Et je crois que c'est tout.
Vous avez été l'entraîneur cette année qui a effectué le moins de changements, 79. Les équipes qui en ont fait le plus en ont fait une centaine, peut-être un peu plus. Pouvez-vous nous expliquer comment cette philosophie, selon vous, vous aide à gagner des matchs ou le reste? On essaie juste de comprendre ce qu'on compare avec les autres équipes. On compare aussi à ce que nous, on est habitués depuis que l'équipe est en MLS et dans les autres ligues, peu importe. Mais est-ce que vous voyez ça comme un handicap et comment vous pouvez nous expliquer globalement.
J'ai juste envie de vous redemander, non pas pour challenger, mais c'est une question que je me pose, est-ce qu'on sait statistiquement que quand on fait plus de changements, on gagne plus de matchs? C'est une question que je pose. C'est comme quand on change un entraîneur, c'est les fameuses statistiques. Est-ce qu'il va faire mieux, ben, moins bien?
Je vais parler au nom.
Mais j'ai une réponse à vous donner en plus. Donc, non, mais on peut. Je peux vous couper la parole. Pour faire un changement, il faut que moi je sois sûr que de deux choses, qu'on va quand même garder l'équilibre de l'équipe, ok, on veut gagner, imaginons qu'on est mené à zéro, je vois à quoi vous faites allusion, on est mené à zéro, et puis si on perd 2-0, c'est fini. Tant qu'il y a 1-0, on peut se dire ok, on va revenir, 2-0, c'est fini. Donc 1-0, donc il faut que je garde l'équilibre de l'équipe quand même, et deux, que le changement que je fais apporte un plus à l'équipe, ok. Donc, dans le cas dont vous parlez, puisque je pense que c'est le dernier match, on l'a signalé, il faut quand même se rappeler que Nacho joue sur le côté gauche, fait beaucoup de courses, parce que les adversaires, de plus en plus, et là, ils font rentrer un joueur, ils font sortir Erivo, je crois, ils font rentrer Farwell, qui est un joueur très puissant, qui va attaquer sur le côté. Donc là, je me dis, c'est où Nacho, il défend pendant 15 minutes, et on l'a plus pour attaquer. Où je le mets un peu dans l'axe sur une fin de match, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, et où c'est intéressant parce qu'il vient nous garder un peu les ballons, ce qu'on ne sait pas trop faire dans cette zone-là, cette saison. Et puis, je mets quelqu'un sur le côté. Je ne peux pas demander à Matteo, à ce moment-là, de rentrer sur le côté. Donc voilà, il y a aussi toute une réflexion qui doit aller très vite. Après, je n'ai pas de... Il y a des matchs où j'ai fait des changements plus tôt, mais je vous l'ai déjà dit et je reconnais que je serais plutôt conservateur d'esprit par rapport à ça, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas des joueurs qui, derrière moi, me donnent, avec le background de la semaine d'entraînement, où je me dis, tiens, celui-là, je l'ai vu toute la semaine, il va me faire quelque chose là encore, comme j'ai vu toute la semaine. Mais je ne suis pas infaillible et je... Voilà, en tout cas, c'est ma réflexion, mon explication.
Yeah, Brenny, you said you had a year in MLS now. What were the biggest challenges and what are the challenges going forward for this season?
No, as I said, it's not the fact that it was MLS that is the big challenge for me. I see that mainly that it was new. But it could have been new for me in Japan or in Belgium, or you know, to get familiar with the environment. But now, but we all know that the challenge in MLS is the surface on which one you play sometimes, the turf or. On the natural grass, the temperature, the trips, and all things like that. But it's still 11v11. What I notice in that league is that sometimes games, the rhythm of the games within the games can be very different. Sometimes it's very low, sometimes it's speed, it's much more like in Europe, and sometimes it's more slow between the two boxes and very physical inside the two boxes, you know, it's difficult to define really a clear style of playing in MLS. You know, the different style of teams is very comparable to Europe, but I mean not France, but it's like you play one time against a French team, next week against an Italian team, Belgium, and you know, Deutschland, and then change every weekend. Maybe this is the biggest challenge in that league. Sorry.
You talked after the Boston game about having needing one or two changes. Where are the changes that you think you need? Where are the areas that you think you have to improve?
I said that we need for next season a striker, and I would like to improve as well. Position in midfield, and I have an idea of the profile of the player that I want, but I'm not sure that I will find it on the market exactly the one I want. Then I don't know if I will have to adapt or if the player will fit exactly what I need. But for sure, I've got the structure of the team, and I don't want to destroy that. I want to add something plus.
Is it the midfielder, someone who controls the ball or attacking the field?
To be honest, sometimes when I read some stuff or listen some comments, I don't know exactly what is someone who can control the ball, or, you know, it's, for me, I don't know. I want someone who is generous, who has a good first touch, good technique, who can see the game before receiving the ball. You know, if I look at you, I know that the guy over there is typing on his computer, he's a good player, if, you know, but control the ball, or, you know, give the ball to assist to the striker that we are going to play, you know, it's, I'm sorry, I'm not seeing the game like that. Maybe I'm stupid, and probably, but I don't
know. Coach, you're talking about the profile that you have in place. How tough will it be to bring that guy in January, or will you wait and be patient to wait till summertime to bring the right guy for your system?
The best situation is to bring the right guy at the right time. I mean, as soon as we can, then I can tell him that to be ready for the preseason camp, and I can give him the program, not for him to be surprised in case of. But then if I have to wait, I prefer to wait a little bit if I'm not completely satisfied. Or not completely, I said that I can accept some, I'm not sure to find the right profile that I need. But then, to answer to your question, if I can, I prefer to wait a little bit on the guy coming 1 month before the beginning of the season, because I think that a very good player, the most good player you are, the easiest it is to settle in inside the team.
One more question, Coach. Is it now a matter of getting quality depth to have to work with from your bench that can help you improve this team for the next season?
Can you repeat the beginning?
The quality of depth, yeah. Is that the most important thing now to help improve this team for next season?
Yes or no, you know, before having depth, you need to have the strongest 11 starters than we can have. And I think that there is position without destroying the group, the solidarity, friendship that has grown in that group. Without destroying that, I think I need two players to improve the group.
Pour revenir, Rémi, sur la situation de l'intérêt venant de l'Europe, quand il y a eu la situation avec Bordeaux, il y a eu de l'intérêt venant du club. À ce moment-là, le commentaire, c'est qu'un départ aurait été prématuré. Je sais qu'il y a quelques supporters qui ont un peu frémi là-dessus en se disant à quel moment ça devient mature. Maintenant, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'entends « si ça ne tient qu'à moi ». Quels autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte? Est-ce que c'est une offre qui serait faite au club, ou ce serait quoi le scénario?
Non, quand je dis ça, vous avez raison de le préciser, si je ne suis pas clair, moi je veux rester. Et à aucun moment, on va parler clairement, à aucun moment Joey Saputo m'a dit « ce serait bien que tu écoutes et que tu partes ». Donc voilà, moi je suis bien, mais il n'y a pas de souci, je vais démarrer la saison prochaine en espérant qu'on fera mieux. Voilà. J'ai répondu.
Est-ce que Rennes a tendu une perche? Est-ce qu'il y a eu des discussions un peu comme vous, une démonstration d'intérêt comme avec Bordeaux?
Non, avant que j'arrive, oui, juste avant, mais pas maintenant. Et donc, je serai là la saison prochaine.
Si on regarde uniquement le contenu des matchs, le terrain, est-ce qu'il y a un aspect en particulier du jeu de votre équipe, du collectif, que vous aimeriez voir progresser pour la saison prochaine?
Oui, j'aimerais qu'on soit capable de contrôler plus longtemps le ballon dans la moitié adverse de nos adversaires, et notamment à l'extérieur. Je pense que c'est un des axes de progression. Il y en a plusieurs, mais... Je pense que maintenant l'équipe est disciplinée, rigoureuse, notre deuxième partie de saison, défensivement parlant, est bien bien meilleure que la première. Donc il faudra qu'on s'appuie là-dessus, mais qu'on arrive à être un peu plus dangereux tout en étant toujours structuré et organisé. Les joueurs ont compris, les chiffres ont montré que quand bien même on était plus organisé, plus structuré, un peu plus bas sur le terrain par moment, quand bien même on avait marqué deux fois plus de buts. Donc voilà, il faut qu'on garde cette rigueur, cette discipline qu'on a réussi à trouver et à comprendre les uns les autres. Mais encore une fois, si on peut être un peu plus par moment, un peu plus haut sur le terrain en bloc, ça peut être intéressant pour nous.
Coach, on sait que dans le marché du football mondial, un attaquant, un buteur, un milieu de terrain avec une certaine créativité, une vision, un bon pied, c'est parmi les positions qui coûtent le plus cher à aller chercher, surtout sur le mercato. Est-ce que vous avez eu des garanties de la part du président comme quoi vous allez pouvoir avoir une marge de manœuvre intéressante de ce côté-là? Autrement dit, est-ce que on vous donne les moyens de vos ambitions?
Je ne suis pas venu avec ce discours ici en disant « je viens si on me donne ça ». Donc moi, je viens, je me mets dans un projet, dans une organisation, et j'essaie de, je l'ai déjà dit, d'exploiter au mieux le potentiel du groupe. Voilà. Après, j'ai évidemment une relation très, très étroite, très claire, transparente avec Joey Saputo, donc, et elle reste dans ce que je viens de vous dire. On va essayer d'être malin, je vais essayer de faire jouer mon réseau, d'appuyer sur les, comme on l'a dit tout à l'heure, les joueurs qui sont venus d'Europe et qui ont un très bon feeling ici, qui aiment ce qui se passe ici. Voilà, après, c'est pas toujours, vous savez, c'est pas toujours quand on dépense beaucoup, beaucoup d'argent qu'on fait les meilleures affaires. Voilà, donc là, il y a une volonté de s'appuyer aussi sur la structure de scouting de Bologne, puisque c'est un club plus que partenaire. Voilà, donc on va essayer de travailler intelligemment. Effectivement, on a un petit peu plus de temps devant nous, même si faut pas traîner.
Je me souviens, au début de la saison, vous nous aviez parlé du fait que vous appreniez les mécanismes de la convention collective, le TAM, le GAM, les joueurs désignés, tout cela. C'est pas facile de jongler avec tout ça. Vous avez des éléments, par exemple, plus locaux dans votre équipe, comme Bush et Piet, qui coûtent pas cher, mais qui ont été des joueurs les plus importants cette saison. Comment jongler avec les joueurs que vous aimez peut-être outre-mer, que vous aimeriez amener, mais aussi dire ça nous prend un équilibre, donc ça prend aussi des joueurs nord-américains qui vont coûter moins cher et qui vont s'assurer que notre masse salariale ne soit pas trop élevée. Est-ce que vous avez une meilleure compréhension et réflexion par rapport à ça?
J'espère. Oui, j'espère que j'en ai une. Après, j'ai aussi... dans mon esprit, j'ai pas envie d'avoir un groupe déséquilibré. J'aime bien la manière dont est structuré le groupe aujourd'hui, avec un groupe de nord-américains, canadiens, États-Unis, français principalement, et puis sud-américains. J'ai pas envie que, de par mes réseaux, ça devienne un club européen ou français ici. Donc je fais attention à ça aussi, parce que l'équilibre du vestiaire est très important. Au quotidien, je peux vous dire que c'est un vestiaire qui vit bien, c'est 30% en plus. Un vestiaire où les joueurs viennent, jouent, ils font leur truc, de temps en temps ça se passe bien, et puis souvent ça se passe parce qu'il faut que ça se passe. Il faut vraiment être au-dessus intrinsèquement, individuellement, pour que ça se passe bien. Donc je fais attention à ça. J'aime beaucoup aussi travailler, voilà, j'aime bien, les mentalités sont différentes, on va pas se le cacher, mais je pense que les trois peuvent s'apporter des choses. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu. Après oui, en termes de, bien sûr qu'en termes de salary cap, c'est sûr que les joueurs qui viennent d'Europe, suivant plus ils sont jeunes, j'ai envie de dire, et plus ils sont gourmands, parce que leur discours, c'est de dire « moi, je veux bien traverser l'Atlantique, coach, ça m'a l'air sympa, votre truc, et j'ai envie, parce que je regarde les matchs de MLS à la télé, ils sont diffusés maintenant, vous êtes là-bas, tout ça, ok, mais voilà, moi, je sais que vu d'Europe, quand je serai chez vous, quand quand sera fini, je suis pas sûr. Donc il faut, voilà. En gros, ça peut se passer comme ça. Donc voilà, il faut à moi d'être malin et intelligent pour avoir effectivement des joueurs. Voilà, bah, le draft sert à ça. Ken a pris cette place cette année. J'espère qu'il y aura des jeunes joueurs. Voilà, je compte beaucoup sur Mathieu, Chouanière, Clément Baya et Daniel Kimbe qui sont pas loin aussi, qui reprendront avec moi. James Pantémis, voilà, il y a des. Bien sûr que. Et j'aime ça. Et j'aime, j'ai envie parce que je sais que ces joueurs-là, je me souviens avoir été à leur place et voilà, d'avoir faim.
Tu as dit tout à l'heure, Rémi, que tu comprenais mieux maintenant, tu connaissais mieux le championnat et la maison ici à l'Impact. Si tu avais l'opportunité de refaire la saison avec ce que tu connais ou ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu ferais différemment?
Je ne referais pas pareil, mais quoi? Je ne sais pas. En fait... J'ai toujours rêvé ça, de refaire ma vie, mais notamment de footballeur, avec toute l'expérience que j'ai. Et je pense qu'on est tous pareils. C'est un truc qui me travaille, donc je ne sais pas ce que je referais différemment. Honnêtement, je ne sais pas. Mais genre, je ferai différemment. Quelques trucs.
Ok, just lastly, you've had a year to adjust now. What should our expectations be for next season with this team? A championship, playoffs, where should we...
To qualify for the playoffs, because this season I think I'm disappointed not to have reached the playoffs. Like my players, you know, we fought hard for that. We didn't succeed, then on one side it's not... It's not good, but on the other side, I think that we improved as a team, and I have the feeling that we are starting the next season closer to be competitive than the situation where we were when we started that one. Then I'm really looking forward and excited to start the next one with the group of players that I have this season.
Une dernière question.
Alors, merci à Rémi Garde et à l'Impact de Montréal pour ce bilan de fin de saison de l'entraîneur. On va revoir l'entraîneur et l'Impact de Montréal la saison prochaine. Alors, nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un petit survol des séries éliminatoires ici sur la transversale. Nous allons continuer l'émission tout au long de l'hiver pour garder un œil sur la MLS et surtout sur les séries éliminatoires. Nous avons eu quelques matchs cette semaine déjà. Mercredi, NYCFC contre Philadelphie, 3-1 NYCFC à la maison. FC Dallas, Portland a gagné sur la route 2-1 et fera face ce dimanche au Seattle Sounders, donc un derby de la Cascadie ce dimanche. DC United contre Columbus a terminé au penalty et évidemment un Anglais, Wayne Rooney, n'a pas réussi son penalty et De Leon a manqué le fameux penalty décisif et Columbus élimine le DC United en cette première ronde des séries éliminatoires. Nous avons eu aussi le Real Salt Lake avec un choc à LAFC, 3-2, quel match divertissant aussi. Un match yo-yo que je pourrais dire. Real Salt Lake a pris les devants 1-0. LAFC a égalé. LAFC a pris les devants 2-1. Real Salt Lake a égalé. Et ensuite, le but peut-être des séries jusqu'à présent. Son deuxième du match, Krylak, avec un petit karaté kid kick qui a été parfait et qui a apporté un... On l'appelle le crane kick dans le domaine du karaté kid, si vous vous rappelez ce film des années 80. Un petit mouvement de jambe, le pied gauche monte et ensuite le pied droit remonte plus rapidement pour terminer la manœuvre. Et nous avons vu quel effet sur le ballon qui a déjoué le gardien du LAFC. Et Real Salt Lake gagne 3-2 durant ce match. Voici les matchs pour ce dimanche et les heures à laquelle vous pourrez les écouter sur les ondes de TVA Sports et de TSN. Columbus contre le New York Red Bulls. Le premier match de cette série aller-retour aura lieu à Columbus au MAPFRE Stadium à 3h heure de l'Est en après-midi. Ensuite, 5h30 heure de l'Est en après-midi, Portland contre Seattle Sounders, le derby de la Cascadie à 5h30. NYCFC Atlanta à 7h30 au Yankee Stadium à New York. Et le Real Salt Lake contre le Sporting Kansas City. Real Salt Lake au Rio Tinto Stadium à 10h heure de l'Est ce dimanche. Voici les matchs et les rencontres pour ce dimanche. On se revoit la semaine prochaine avec un petit survol de séries éliminatoires. Et comme à l'habitude, je vous souhaite bon soccer.